C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous qui écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Vous venez d'entrer dans une heure dédiée aux 10 grands arts de l'humanité, avec un focus de ce qui se fait pour chacun d'entre eux dans la région de Paris. Et si je vous disais que la curiosité n'a rien d'un vilain défaut, qu'au contraire, elle est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse avoir, vous me croyez ? La curiosité, c'est ce sentiment qui provoque en nous une intrigue, qui nous tire vers l'inconnu. C'est ce vide que nous avons à cœur de comblée malgré nous. Elle donne cette sensation que nous avons des terrains à explorer qui nous feront toujours grandir. Et quoi de mieux que de se confronter à l'art pour la nourrir et peut-être la combler. Écriture, son, image, forme, mais aussi lieu, ambiance et émotion, il y a de quoi la rassasier. Alors, alimentez toujours ce mouvement à l'intérieur de vous, nourrissez-le de découvertes et d'étonnements, creusez. Encore et sans cesse. Chères auditrices, chers auditeurs, que vous soyez déjà fidèles à notre nouvelle émission de culture ou tout simplement curieux de savoir ce qu'il se fait, ce qu'il se dit, ce qu'il se crée, vous êtes au bon endroit. Vous écoutez C'est dans l'art, l'émission d'actualité culturelle qui explore ce qui se fait dans le Grand Paris, et c'est sur Radio Campus Paris. Et on démarre cette heure maintenant. Au programme de C'est dans l'art ce soir, on lève les yeux sur les affiches qui peuplent nos rues. On se penche sur le modèle d'Ina Verny pour la sculpture, on parle Corée et adoption pour ce qui est de la BD, on explore la réalité des metteurs en scène pour ce qui est du spectacle et enfin, on décrypte le jeu vidéo Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Encore de quoi s'inspirer dans tous les arts. C'est dans l'art, c'est sur le 93.9 FM en Ile-de-France, sur le canal Campus en DAB+, et partout et tout le temps sur radiocampusparis.org. Amis curieuses, amis curieux, c'est parti pour une heure artistique.
C'est dans l'art, un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris.
Et pour m'accompagner ce soir, j'ai avec moi autour de la table du studio direct de Radio Campus Paris, Jeanne.
Bonsoir.
Hugo.
Coucou.
Isnel.
Bonsoir.
Et Diane.
Salut.
Qui vous dévoileront leur sujet. Sophie nous a laissé une chronique et Fabrice fait partie de notre tour de table aujourd'hui.
Bonsoir.
À la technique, comme d'habitude, dans la régie de Radio Campus Paris, il y a Eléa et je suis Léa pour vous accompagner une fois de plus au fil des chroniques et des réactions. Salut tout le monde.
Salut. Salut. Salut.
Comment ça va ?
Bah écoute, la forme, ravi d'être autour de cette table, de ce studio.
Alors voilà, c'est un petit peu spécial, on a Fabrice qui sera avec nous aujourd'hui. Bon, Fabrice, il n'est pas inconnu hein, à l'émission, puisque c'est lui qui l'a créé tout simplement.
Ouais, à ce qui paraît.
À ce qui paraît, on a la gentillesse de l'accueillir aujourd'hui, mais c'est très exceptionnel, ne vous
Merci,
inquiétez pas.
Ils ont décidé de me virer parce que voilà, ils ont pris leur indépendance, tout ça.
Allez, commençons notre émission sans plus attendre.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Et on commence cette émission par le tour d'actualité générale avec Jeanne, de retour parmi nous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ?
Alors, du côté de la littérature et de la bande dessinée, pas de recommandations cette fois-ci, mais quelques nouvelles du secteur. Puisque tout récemment, le Centre National du Livre rendait public les résultats de son baromètre « Les Français et la lecture » réalisé tous les deux ans. Ainsi, quelques grandes tendances se dessinent, un désintérêt croissant pour la lecture, une évolution des pratiques, moins de livres papier au profit des livres numériques et audio, une nette augmentation de l'achat de livres d'occasion par rapport aux livres neufs, et pour la première fois depuis la première édition en 2015, les libraires sont passés derrière les grandes surfaces culturelles comme lieu d'achat des livres. Le rapport impute au temps d'écran moyen des Français ses résultats peu encourageants, mais souligne tout de même le rôle prescripteur important des réseaux et des plateformes dans l'achat des livres. Architecture, le Centre Pompidou s'apprête à fermer ses portes pour 5 années de travaux. Il est donc encore temps d'en profiter, par exemple avec l'exposition Transforms consacrée à Hans Hollein. L'architecte autrichien expérimental et designer visionnaire avait publié en 68 son manifeste « Tout est architecture », à voir donc jusqu'au 2 juin. Côté art visuel, deux expositions pour célébrer deux grands noms de la photo parisienne. D'abord le Paris d'Agnès Varda au musée Carnavalet et l'inimitable Robert Doisneau avec Instant Donné au musée Mayol. C'est à voir encore jusqu'à la fin de l'été, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Dans l'actualité des arts de la scène, il n'est pas trop tard pour évoquer le palmarès des Molières, la grande fête annuelle du spectacle vivant public et privé qui s'est tenue fin avril. Dans le palmarès, on retrouve les spectacles Le Soulier de Satin d'Éric Ruff, Le Charbon dans les veines de Jean-Philippe Daguerre, Les Misérables, le spectacle de Paul Mirabel, etc. etc. Mais si vous ne l'avez pas encore vu, allez écouter le discours de Thomas Joly, la superstar de la mise en scène en France, qui recevait un Molière d'honneur en nous rappelant que le théâtre est comme un miroir de la société. Il n'a pas vocation à changer le monde, mais nous demande frontalement, et vous, vous en pensez quoi ? Art médiatique, une bonne et une mauvaise nouvelle pour les amateuristes de podcasts et d'interviews qui ressemblent un peu à des conversations de fin de soirée entre amis. La fin d'une aventure d'abord, puisque le Floatcast d'Adrien Méniel et Florent Bernard s'arrêtera cet été au bout de 10 saisons et près de 250 épisodes qui se sont hissés au sommet des classements d'écoute en France. Soulignons peut-être la sagesse des deux présentateurs d'avoir su arrêter quelque chose qui marche avant justement que ça ne marche plus. Mais pour vous consoler, vous pourrez toujours découvrir ou redécouvrir « À bientôt de te revoir » de Sophie-Marie Larouy, autrice inclassable qui a produit dans la même année un podcast de méditation sur le thème des hypermarchés et un podcast très pointu de psychanalyse sur la maternité. Elle revient avec un format dans lequel elle excelle tout autant après une pause de 2 ans à écouter sur toutes les plateformes. Dans l'actualité musicale de ces derniers jours, des retours qu'on attendait ou pas, à commencer par l'incontournable Lana Del Rey dont le nouvel album The Right Person Will Stay arrive dans quelques jours, patience. Et puis dans les sorties récentes, en vrac Ben l'Oncle Soul, encensé par la critique alors que j'avais complètement oublié personnellement son existence depuis mon année CM2. Le groupe La Momali, formé par M et Fatoumata Diawara, présente le très bel album Totem dans la continuité de leur projet entre la France et le Mali. Et puis, si vous êtes aventureux, Michel Polnareff signe Un Temps pour Elle, qu'il annonce comme son dernier album, et heureusement, puisqu'il s'agit d'une sorte de grosse bouillie pop et réac dont on se serait bien passé.
Mais il n'est pas mort, Polnareff.
J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Au cinéma, en ce printemps, j'ai voulu mettre en lumière non pas une sortie, mais une ressortie de film, celle du Joli Mai de Chris Marker, le réalisateur de la célèbre Jetée, signé en 1963 avec Pierre Lhomme, ce documentaire tourné à Paris l'année précédente. La guerre d'Algérie vient de s'achever, et en ce premier mois de paix depuis 7 ans, il dessine sur le vif un portrait de la France à l'aube des années 60 qui s'ouvre sur ces mots. Est-ce la plus belle ville du monde ? Paris est cette ville où l'on voudrait arriver sans mémoire, où l'on voudrait revenir après un très long temps pour savoir s'il y a toujours ici le même dosage entre la lumière et la brume, entre l'aridité et la tendresse, etc., etc., etc. C'est très beau, il reste encore quelques séances un peu partout en Ile-de-France tout au long du mois de mai.
Merci beaucoup Jeanne pour ce point actu, il y a beaucoup à découvrir ou à redécouvrir de ce que tu nous dis.
Sauf Polnareff.
Allez, commençons les festivités sans plus attendre.
Architecture,
sculpture,
musique,
c'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Et pour commencer les chroniques du jour, parlons bande dessinée avec Diane. Tu nous as trouvé un récit poignant qui mêle destin de vie et Asie.
Exactement. Alors avant, il faut que je vous raconte une petite histoire. Il y a quelques semaines, Fabrice, le rédacteur en chef de cette émission, le créateur, le seul, l'unique, nous attribue nos dates d'enregistrement et choisit de me positionner sur une chronique bande dessinée, ne sachant pas encore laquelle dont je vais vous parler. Donc sans BD en tête, je sortis récemment, je décide de passer à ma librairie de quartier, la librairie nouvelle de Asnières-sur-Seine, en me disant « je vais bien trouver une pépite dont je pourrais vous parler ». Je fais un premier tour, je cherche une BD sortie récemment, sans succès. Je tombe alors sur le libraire qui me conseille « Destin coréen de Jung ». Il me raconte l'histoire suivante. Nous sommes en Corée du Sud, un pays marqué par une culture patriarcale et très traditionnelle. En Corée, les mères célibataires sont très mal vues et encore plus les jeunes mères célibataires. Il est donc très fréquent et même presque obligatoire d'abandonner son enfant lorsque l'on tombe enceinte et que l'on est une jeune femme non mariée. Concernant la possibilité d'avoir recours à un avortement, il est considéré depuis 1953 comme un délit passible de peine d'emprisonnement. Alors l'interdiction a été levée en 2019, mais c'est encore très 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 mal vu et même si les lois changent, les mentalités sont encore restées en 1953. Et c'est donc un questionnement que toutes les jeunes femmes célibataires tombent enceintes.
C'est effroyable.
Ouais, moi ça me fait froid dans le dos hein, de savoir qu'on est encore bien en retard dans d'autres pays du monde et que les combats féministes sont encore plus que nécessaires.
Mais alors du coup, c'est quoi le lien avec l'histoire de Destin coréen de Jung ?
Eh bien, Jung, le co-scénariste et dessinateur de cette bande dessinée, il vient de Corée du Sud. C'est un enfant adopté. Il a été abandonné à sa naissance par sa mère qui ne pouvait l'élever seule. À ses 6 ans, il a été adopté en Belgique, où il grandit auprès de sa famille adoptive. Et au fil de sa vie, il se forme à l'illustration. Il commence à faire des strips pour le magazine Spirou. Mais c'est plusieurs années plus tard qu'il décide de raconter des histoires d'adoption en bande dessinée, que ce soit avec Baby Box, où on découvre le récit d'une jeune fille, Claire, et son père et son frère, qui après un grave accident de voiture, perdent leur mère et voient leur père tomber dans le coma. Claire découvre alors qu'elle a été adoptée, et s'en découle un récit très fort, mais surtout un bouleversement familial. Ou bien avec Couleur de peau miel, où il raconte, dans un récit terriblement intime, sa survie en Corée et sa nouvelle famille belge. Et il en sortira 6 tomes. Et en fait, c'est avec cette dernière que la bande dessinée Destin coréen fait écho. À sa sortie, la bande dessinée a un impact fort. Elle met en lumière un sujet assez peu traité, le destin des mères célibataires en Corée. Plusieurs années plus tard, la bande dessinée est traduite en coréen et donc distribuée dans le même pays. Jung se retrouve à participer à des tables rondes, il fait des conférences avec des associations d'adoption en Corée. Il devient une référence sur le sujet et une réelle star dans son pays d'origine.
Ok, donc je vois que c'est un sujet important pour notre auteur, mais du coup, c'est quoi l'histoire de Destin coréen ?
Eh bien, Destin coréen, c'est l'histoire croisée de Jung, notre auteur, et de Joy. Joy, c'est une jeune fille coréenne. Elle tombe enceinte après une relation éphémère avec un garçon. Elle est hantée par la honte, le poids des regards, et n'ayant pas d'argent pour élever son enfant, elle s'apprête à le faire adopter. Mais alors qu'elle se balade, elle passe devant une librairie et tombe alors sur la fameuse BD autobiographique de Jung qui a été traduite. Elle l'achète, la lit, et je crois que j'ai un peu envie de vous laisser là-dessus. En fait, cette bande dessinée, elle pose une question essentielle. Comment vivre dans une société qui rejette les mères célibataires et où la réussite prime sur tout le reste ? Parce qu'au-delà d'élever un enfant seul, quand on est une mère célibataire, c'est une question de comment lui donner une vie respectable aux yeux de la société qui prime la réussite professionnelle et scolaire avant tout. Ça veut dire arrêter ses rêves de grande réussite pour se focaliser sur sa vie de famille et peut-être dans la précarité la plus totale. Alors c'est toute une réflexion que nous invite à avoir cette bande dessinée et c'est magnifiquement amené par Jung, donc je vous invite vraiment à la découvrir.
Un récit bouleversant qui met en lumière la question de l'adoption en Corée de nos jours. Merci Diane.
De rien.
Allez, passons aux réactions. Un sujet comme ça en bande dessinée, est-ce qu'on trouve ça pertinent ? Est-ce que ça vous donne envie de la lire ? Hugo, qu'est-ce que tu dis ?
Ah, moi, je suis... Diane, elle m'a charmé. Genre, j'ai trop envie d'aller la lire. Surtout que je savais que la Corée, c'était un pays où il y avait un fort mouvement masculiniste. Et j'avoue que j'avais pas du tout pensé aux femmes célibataires qui ont des enfants jeunes, etc., et toutes les histoires d'adoption. Donc franchement, c'est un sujet que tu me donnes envie d'explorer, surtout quand la Corée du Sud, c'est un pays qui est en plein mouvement en ce moment, avec il y a eu le coup d'état raté récemment aussi.
C'est marrant parce que c'est comme ça que le libraire m'en a parlé quand il m'a proposé, il m'en a parlé de 2-3, etc. Et quand il m'a parlé de ça, j'ai dit mais c'est en Corée, et en fait j'étais pas du tout au courant de l'impact même masculiniste qu'il y avait en Corée. J'ai dit mais c'est en Corée du Sud, c'est pas en Corée du Nord. Il dit non, c'est vraiment en Corée du Sud. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout au courant de ce qui se passe en termes de droits des femmes, etc. Donc ouais.
Jeanne.
Oui, justement, ce que tu dis me fait penser au fait qu'il y a quand même, du point de vue occidental français, un espèce de gros fantasme autour de la Corée du Sud et tout le soft power qu'ils ont au travers des K-dramas, K-pop, etc. Et peut-être que c'est bien de remettre un peu l'église au milieu du village et de remettre comme ça un peu des points de contexte de ce qui se passe sur le plan social dans ces pays-là.
Isnel, ça t'inspire quoi tout ça ?
Oui, pareil. J'ai pas mal aussi... était affectée par tout ce qui était la soft power de la Corée du Sud. Mais c'est vrai aussi que via des youtubeurs et tout, j'avais appris que les conditions pour les mères célibataires, etc., c'était encore plus compliqué là-bas. Et moi-même, ayant été élevée par une mère célibataire, c'est vrai que ça m'a beaucoup intriguée et ça m'a vraiment donné envie de le lire parce que je sais qu'effectivement, pour le Japon et la Corée du Sud, c'est encore plus compliqué pour les mères célibataires. Donc c'est super intéressant, je trouve ça bien de mettre ça en lumière... dans un média comme ça.
Fabrice, qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet ?
Alors déjà, je tiens à dire que le livre est super beau, parce que Diane l'a amené en studio, et c'est une BD blanche et jaune, donc vraiment qui donne déjà envie de lire dès qu'on découvre un peu la BD, et de manière générale, ça m'a aussi donné envie de le lire, parce que la Corée, c'est quand même une société qui nous paraît vraiment loin, avec des codes qu'on n'a pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas trop. C'est vrai qu'il y a la K-pop qui... On entend parler de ça, mais pas plus. Et ça nous donne aussi envie de voir un peu quelle est la comparaison qu'on peut faire avec nous, ce qu'on vit en France, ce qu'on connaît en France. Et il y avait deux points qui me sont venus quand Diane parlait. C'est déjà le premier, c'est que je crois que la mère célibataire est la référence de la pauvreté en France. Donc déjà, ça, c'est à méditer. C'est la première des choses. Et la deuxième, c'est le fait que récemment, j'ai entendu quelqu'un qui a été adopté. Elle était coréenne. Elle a été adoptée, je crois, par des Américains. Et en fait, elle a découvert qu'elle avait une sœur jumelle.
C'est ses destins cachés aussi.
Voilà, c'est ça.
On ne fait pas toujours les liens. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires qui remontent comme ça.
C'est un truc de dingue, quand même.
Non, c'est sûr que c'est très intéressant et très profond comme sujet, et je trouve que le choix du roman graphique ou du moins de la bande dessinée permet quand même de transmettre des émotions par le choix graphique, des dessins, bien sûr par le côté éditorial et comment est-ce qu'on amène l'histoire. Ça vous est arrivé, vous, de lire des romans graphiques poignants sur des sujets aussi complexes ? Jeanne, peut-être ?
Je suis très très peu lectrice de romans graphiques. Je sais qu'il y a des choses exceptionnelles qui se font, mais j'avoue que j'en suis pas très cliente. Je sais pas trop pourquoi, mais
non. Diane, peut-être.
Ouais, moi j'en ai
un ou deux pour terminer la discussion.
Bah, moi j'ai lu deux bandes dessinées de Jim Bishop, que je salue parce qu'il me connaît, etc. Mais bref, Jim Bishop, c'est un auteur de bandes dessinées qui a sorti trois bandes dessinées en plusieurs années et qui sont un peu un triptyque. Et la première bande dessinée qu'il a sortie s'appelle Lettre perdue et c'est sur l'histoire d'un jeune homme qui est un peu dans un monde fantastique, qui attend une lettre de quelqu'un et qui ne la reçoit jamais. Mmh. Et en fait, ça parle du décès de sa mère, de Jim. La deuxième bande dessinée qu'il a faite, c'est sur une relation toxique qui s'appelle À mon ami Pierrot. Et donc, ça parle de relations toxiques, ça parle de relations amoureuses, mais du coup, c'est très profond et il y a un vrai sujet au sein de ça. Et le dernier qu'il a sorti, là, c'était en janvier, s'appelle L'enfant fantôme et ça parle d'adolescence et notamment de harcèlement scolaire et de comment tu te construis quand t'es adolescent pour survivre. Et c'est très poignant et très, très beau. Voilà.
Merci pour vos réponses. Pour rappel, on vient de parler de la bande dessinée Destin coréen de Jung. Elle est disponible dans tous les points de vente. Allez voir si ça vous tente. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
Art visuel, art médiatique, art de la scène. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
À mon tour de vous parler architecture. Il est temps de lever les yeux sur les murs et les façades qui nous entourent et de leur donner un autre regard. Un bâtiment peut-il être habillé, voire même sublimé? Et si oui, depuis quand le faisons-nous? Voilà les questions auxquelles répond l'exposition « L'art est dans la rue » qui se tient au musée d'Orsay. Et elle commence directement avec cette citation « La véritable architecture, c'est l'affiche ». Que ce soit dans les métros, sur les façades des bâtiments ou encore pour couvrir des travaux en cours, les affiches sont partout. Mais depuis quand remonte cette pratique? Ces immenses feuilles colorées avec de gros messages apparaissent il y a plus de 200 ans, au 19e siècle. Voilà ce que l'on trouve dans les couloirs de l'exposition. Les premières affiches jamais créées en France, avec les visuels et les messages de l'époque. Attendez-vous à lire des accroches un peu vieilles et parfois étonnantes. En suivant le parcours de l'exposition, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on découvre comment les messages, les techniques de dessin et les intentions ont évolué dans les premières décennies. Car si les affiches ont d'abord été créées pour mettre en avant des livres, elles s'orientent ensuite sur les événements, les soirées, puis vers l'achat en tout genre. Très vite, le format est ultra utilisé et ultra diffusé. Évidemment, la figure de la femme fait rapidement irruption dans les visuels, garante de l'image de séduction, et donc très bon pour la consommation. Et si l'art de rue se cache dans les affiches, il devient également politique. Vous pouvez retrouver à la fin du parcours les affiches les plus revendicatrices, très importantes pour la liberté d'expression de l'époque. Mais alors, quelle lecture de la ville nous permettent ces affiches ? Voilà la question qui m'a suivie tout le long de l'exposition. Non seulement ces affiches habillent les rues que nous traversons, mais elles font aussi vivre la ville autrement. Elles la rendent dynamique, vivante, avec des lieux où se rendre. La ville devient presque un terrain de jeu, orienté par ses couleurs et ses messages qui nous guident à chaque pas. Je me suis dit finalement, c'est comme redonner une âme aux lieux emblématiques de la ville, leur donner vie alors qu'ils sont pourtant figés. L'exposition a cependant quelques limites. Par exemple, elle ne montre quasiment que des affiches parisiennes. Et même si le pouvoir d'achat a toujours été plus élevé dans la capitale, j'ose croire qu'il ne lui est pas exclusivement réservé et que d'autres affiches ont été placardées dans toute la France. Il aurait été intéressant de pouvoir comparer les approches territoriales. Évidemment, l'exposition se centre uniquement sur les productions du 19e siècle, ce qui laisse un goût de manque de quelque chose. On aurait aimé voir l'évolution jusqu'à aujourd'hui de ces grands papiers. Néanmoins, le pari est réussi en ce qui concerne la plongée dans une autre époque et dans un autre langage. L'art est dans la rue. L'exposition est gratuite pour les moins de 26 ans. Sinon, il faut payer 16 € en tarif normal. Et elle est ouverte jusqu'au 6 juillet au musée d'Orsay. Je vous laisse y aller si ça vous intrigue. Allez, passons aux réactions. Les affiches dans la ville, c'est quelque chose que vous remarquez, Isnel? C'est un truc que tu vois, qui te heurte?
Non, c'est vrai que j'avoue que j'avais pas trop fait attention, donc j'aimerais bien voir cette exposition. Je sais que j'avais appris à l'université qu'effectivement les premières affiches c'était pour les ventes de livres et de journaux, donc je serais super intéressée de voir ça, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu voir aussi comment étaient les affiches dans, au niveau de la campagne, dans les autres régions, faire la comparaison. C'est vrai que ça aurait été intéressant.
Hugo, toi, de manière générale, quand tu te balades dans la rue, les affiches, c'est quelque chose qui te marque ou tu, juste tu passes, tu les vois pas?
C'est un truc qui m'embête plus qu'autre chose, j'avoue.
Je savais que t'allais dire ça.
en vrai, j'aime bien l'art. Si on parle de l'art dans la rue, de manière générale, j'aime bien quand après le passage d'une manif, je vois tous les messages revendicatifs, etc. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué par rapport à ça, c'est quand une fois, je suis sortie de chez moi à Toulouse, il y avait une affiche, un truc JC Decaux cassé, et j'ai redécouvert la ville parce qu'en fait, je pouvais voir à travers, ça faisait vraiment un cadre. Et donc, moi, je suis pour qu'on enlève toutes ces pubs qui nous bouchent la vue.
Jeanne, une réaction ?
Non, j'allais dire, je crois que c'est intéressant aussi pour situer politiquement, socialement, l'endroit où qu'on traverse, parce que je pense que même dans les arrondissements de Paris, en fonction de où on se promène, c'est pas du tout le même genre de contenu qui sont placardés sur les murs, et ça ajoute tout de suite à l'ambiance du lieu. Enfin, moi j'habite à Bagnolet, qui est hyper à gauche, militant et tout, et donc ça se sent même en regardant juste les murs et ce qui est affiché partout, quoi.
Diane.
Ouais, moi je suis très curieuse des affiches. Moi, mon déco chez moi, entre guillemets, c'est de récupérer plein de cartes, de postales, plein de petits dépliants, etc., que je trouve très beaux graphiquement. Et du coup, je suis très curieuse de ça. Je pense que c'est lié aussi à ma formation. Je fais des études au graphisme, en impression, etc. Donc, quand il y a un truc qui est beau, je suis un peu en train d'essayer de l'analyser, de me dire comment est-ce qu'ils ont fait ça, etc. Mais c'est sûr que... j'habite à Paris maintenant, enfin j'habite à Asnières, mais je viens de Tours, et c'est sûr que quand je vais à Tours, c'est pas, maintenant c'est une ville de gauche portée par un maire écolo, et c'est pas du tout les mêmes affiches et les mêmes publicités, les mêmes choses qui sont mises en avant, etc. Et du coup, ça fait du bien aussi de voir autre chose, d'avoir un truc un peu plus graphique et peut-être plus agréable à l'œil, ouais.
Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'au-delà donc de la lecture de la ville, il y a aussi une lecture de la consommation de la société à l'époque, puisqu'on ne met pas en avant forcément les mêmes objets, ni de la même manière, et j'ai trouvé ça très intéressant. Fabrice, qu'est-ce que tu veux dire, toi, sur ce sujet ?
C'est intéressant parce qu'on soulève pas mal de choses. On soulève la question de la publicité qui est régie par les communes. Par exemple, je pense au fait que Grenoble a essayé, dans la mesure du possible, de supprimer la publicité dans son espace, mais qu'elle n'y arrive pas, parce qu'aujourd'hui, on est dans des contraintes budgétaires fortes. Et sinon, ouais, je regarde les affiches à fond. J'aime beaucoup, beaucoup regarder les affiches. Parce
quand tu les regardes, est-ce qu'elles te marquent ? C'est-à-dire, est-ce que tu vas noter ce que tu vois ? Est-ce que ça va t'impacter dans où est-ce que tu vas aller ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Il y a un changement ou juste tu le regardes parce que ça t'attire l'œil et c'est tout ?
Je regarde beaucoup parce que ça m'attire l'œil, d'abord. Et après, je suis aussi curieux, je te rejoins, Jeanne, sur le fait que ça dit quelque chose de la ville, de là où tu es, dans le quartier où tu es, parce que ça exprime beaucoup de choses, un côté un peu contestataire ou justement très propre. Voilà, c'est des belles affiches derrière des vitres et tout. Ça dit beaucoup de choses. Et oui, parfois, ça peut m'inspirer. Oui, je vais sortir mon iPhone à la rubrique notes et je vais bien évidemment noyer cette recommandation dans les 1500 notes que j'ai. Bien évidemment, mais ouais, non, ça m'inspire pas mal.
Merci pour vos réponses. On vient de parler de l'exposition L'art est dans la rue au musée d'Orsay qui se tient jusqu'au 6 juillet prochain. Allez-y. Merci d'avoir écouté cette première partie de C'est dans l'art. Pour les curieuses et curieux, nous continuons de découvrir de nouvelles œuvres et personnalités. Place aux arts de la scène, aux jeux vidéo et à la sculpture. À tout de suite.